Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média au menu. Menu, média et culture au sens large. Chez lundi, c'est le premier savonnage. Tiens, aujourd'hui par exemple, on va vous dire quoi penser non pas du film, mais du livre Dune et de la nouvelle pièce avec Richard Anconina. Il y aura également Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait pré-fame de Lisa-Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray et ses voix multiples. Et puis dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier soir et du week-end avec Louise Bernard avec deux surprises, une info et une audience. Notre infomédia va se pencher sur une revue unique qui cible les vieux, qui l'assume et qui s'en amuse, et ça s'appelle Schnock et ça marche. Nous serons avec son cofondateur et rédacteur en chef, également rédacteur chef de Technicart, Laurence Rémila. Et puis nos invités, Olivier Ménard, présentateur de la mythique émission L'Équipe du Soir sur la chaîne L'Équipe, c'est le canal 21, qui en est à sa 14e saison après avoir déjà reçu les ex-présidents Sarkozy puis Hollande, tout ça pour parler d'OM-PSG, voire de Clermont-Strasbourg. Clermont, justement, on y est. On va recevoir la romancière prodige Cécile Coulon pour son 8e roman à seulement 31 ans, Seul en sa demeure, c'est chez l'Iconoclaste, après avoir reçu le prix littéraire du journal Le Monde pour son précédent Une bête au paradis. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias,
Louise. Alors une information qui vient de tomber et puis après il sera question de surprise. Les deux viennent de TF1, l'une concerne Danse avec les stars, l'autre le programme diffusé ce soir. Il sera aussi question de victoire, celle de Thierry Ardisson contre C8 et celle des salles de cinéma américaines.
Mais d'abord les audiences, le week-end, mais d'abord hier soir, qu'ont regardé les Français ?
Alors hier soir, ils ont regardé TF1, le film Equalizer 2, 4 340 000 téléspectateurs devant un bon score, un 22,5% de part d'audience. Deuxième, un film également, le film Médecin de campagne sur France 2 avec François Cluzet notamment, 3 600 000 téléspectateurs, 17,3% de part d'audience. Un bon score aussi pour France 2 pour le cinéma du dimanche. Et puis troisième, M6 dans sa haute moyenne avec un zone interdite sur les guerres de voisinage, conflit du quotidien. J'embrasse ma voisine qui a fait la fête tout le week-end. 2 307 000 téléspectateurs, 11,3% de part d'audience.
Ça a chauffé hier sur les réseaux sociaux au sujet de cette émission, justement avec des photos dingues. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. On passe aux audiences du week-end, Louise. Qu'ont regardé les Français d'abord samedi soir?
Alors c'était la bataille entre TF1 et France 2, bataille de concours musicaux. D'un côté The Voice qui lançait sa saison anniversaire, 10 ans, et puis de l'autre Nagui qui lançait lui sa création française The Artist. Bataille largement remportée par TF1, 4 600 000 téléspectateurs contre 1 300 000 seulement devant France 2. La chaîne est seulement quatrième de la soirée. C'est vraiment un échec cuisant. Je vous donne donc le classement pour samedi. TF1 en tête, comme je vous le disais, très bon lancement, suivi par France 3 avec Amour à mort, 3 millions de téléspectateurs devant ce téléfilm policier en rediffusion. Et puis M6, troisième avec sa série Docteur Haro, 1 800 000 téléspectateurs.
Et vendredi soir ?
C'était une bien meilleure soirée pour France 2 puisqu'elle était leader grâce à sa série Candice Renoir, 4 millions de fidèles, suivi de TF1 qui proposait un divertissement avec Soprano et Camille Combal, 3 200 000. C'est mieux que les scores que faisait Jarry les semaines précédentes. Et puis enfin, M6 légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière avec sa traditionnelle série NCIS, mais qui se maintient quand même bien, 1 800 000 téléspectateurs.
Culture Média.
On commence le journal des médias avec cette nouvelle qui vient de tomber il y a quelques instants.
Oui, vous l'avez peut-être entendu dans le flash, mais oui. Je vous la redis si vous venez de nous rejoindre. CNews annonce dans un communiqué que Éric Zemmour ne sera plus à l'antenne, ne pourra plus faire l'émission Face à l'info. CNews qui dit être contrainte de renoncer. Cela fait suite à la décision du CSA de décompter le temps de parole du polémiste.
Et puis, une surprise désormais dans un générique des...
On
a improvisé, voilà.
Attendez,
ce qui arrive.
Si vous voulez, on la refait. Ouais. On recommence. Allez, on recommence.
Et puis après cette info, une surprise.
C'est mieux,
et oui,
non.
Vous avez reconnu le casting, le générique de Danse avec les stars.
Une surprise
dans le,
et on
une
va pas
surprise dans le casting. Non, on la refait pas trop fort.
Non, donc une surprise dans le casting de Danse avec les stars. C'est une première à quelques jours seulement du lancement de la nouvelle émission de TF1, du lancement de la nouvelle saison de l'émission de TF1. Un nom vient s'ajouter au casting, Vaïma Lama Chavez, Miss France 2019. Ce sera la 8e Miss à participer à l'émission de TF1. On croyait le casting au complet. Il y avait même eu une première bande-annonce qui avait été diffusée sans elle. Et puis finalement, on ne sera même pas au bout de nos surprises parce que Le Parisien, qui a révélé l'info, annonce que d'autres noms surprises pourraient suivre. Et vendredi, je vous donnerai tous les détails de cette nouvelle saison de Danse avec les Stars qui sera de retour après 2 ans d'absence.
Thierry Ardisson gagne son procès en appel contre C8.
Un procès qui fait suite à l'arrêt de son émission Salut les Terriens en 2019. L'animateur avait refusé de continuer de produire son talk show s'il devait le faire pour 2 fois moins cher. La chaîne l'avait alors supprimé en mai 2019, soit 1 mois et demi seulement avant la fin de la saison, ce qui avait poussé Thierry Ardisson à poursuivre C8. Première bataille remportée en janvier 2020, mais l'animateur et producteur juge alors les indemnités accordées par le tribunal de commerce insuffisantes, c'était 800 000 euros environ. Cette fois en appel, sa boîte de production va toucher 3 800 000 euros pour rupture brutale des relations commerciales, une somme à laquelle s'ajoutent 2 700 000 euros environ pour Télé Paris. C'est le prestataire qui assurait le tournage de l'émission et c'est une boîte dont Thierry Ardisson détient la moitié des parts. C8, de son côté, touchera 50 000 euros pour violation de la clause de confidentialité.
Salut les terriens ! Salut les terriens !
La suite du journal avec le retour de Joséphine Ange-Gardien sur TF1 ce soir.
Petite musique que plusieurs générations connaissent bien. Un retour surprise parce que TF1 devait diffuser la suite de sa série Une mère parfaite, mais tout a été chamboulé par la mort de Belmondo la semaine dernière. La série n'est donc pour l'instant pas diffusée. L'autre consolation, un épisode inédit de Joséphine Ange-Gardien. Alors Mimi Mathy se retrouve cette fois à aider une créatrice de mode qui est jouée par Victoria Abril. Elle doit gérer la préparation d'un défilé très important pour sa marque et une opération médicale tout aussi capitale. Un épisode dans l'univers de la haute couture, c'est une première. Et oui, Mimi Mathy nous a confié être ravie du résultat.
On avait ce couturier qui habille toutes les Miss France et qui nous a prêté toute sa collection avec des choses très anciennes et des choses complètement récentes et futuristes, qui a créé des robes pour nous pour que ça fasse pas kitsch, quoi. C'est ce qui transparaît, je trouve, quand on voit l'épisode. Moi, je l'ai adoré parce qu'on se dit pas, tiens, un épisode de plus sur la mode, on va voir 4 robes qui se courent après. Et puis voilà. Et l'univers de la mode, on s'attendait à voir Joséphine dans beaucoup d'univers, mais peut-être pas dans celui-là. C'est sûr que j'ai jamais postulé pour être mannequin.
Première, alors que la série compte près de 100 épisodes, elle existe depuis 1997. Aucune lassitude nous promet Mimi Mathy, d'autant que si son personnage reste le même, en fait il change de métier à chaque fois, à chaque épisode. Et puis en plus de trouver des thèmes nouveaux pour les épisodes, l'équipe essaie de faire évoluer un petit peu la série quand même au fur et à mesure des années.
On garde la base qui est de traiter d'un sujet de société qui peut toucher tout le monde, sauf que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ange gardien, mais on essaye de rester dans l'air du temps. Les derniers épisodes, c'est plus punchy. Joséphine est beaucoup plus féminine et je dirais casse-couille. On ose des trucs parce qu'elle veut arriver à tout prix au bout de ses missions. Et c'est vrai que faut pas changer une série qui marche, faut juste la faire évoluer, peut-être plus dans l'air du temps, dans la réalisation, et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis quelques années, quoi.
Voilà, Joséphine Ange-Gardien, Haute Couture, diffusée ce soir à 21h05 sur TF1.
Et puis on termine ce journal avec une information en provenance des États-Unis. Les films Disney vont passer par la case cinéma avant d'être mis en ligne sur la plateforme justement Disney+.
Ils seront disponibles au cinéma pendant 45 jours consécutifs au moins avant d'être mis en streaming. C'est une annonce qui est vraiment très importante. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a un gros enjeu économique qui se cache derrière. Disney est donc producteur de films, mais possède également sa plateforme, Disney+. La firme avait récemment décidé de proposer ses films en même temps au cinéma et sur la plateforme. Résultat, des salles de cinéma fragilisées et des acteurs très mécontents. Comme en juillet dernier, quand Disney sort le film Black Widow, c'est une super production Marvel, il le sort au cinéma et en streaming. Et c'est là que ça coince. Échec commercial dans les salles obscures et procès en vue pour Disney, car Scarlett Johansson, l'actrice principale, estime qu'il s'agit d'une rupture de contrat. Mais oui, parce qu'une partie de son salaire dépendait des ventes des places de cinéma. Aïe. Et donc Scarlett Johansson est rapidement soutenue alors par plusieurs personnalités d'Hollywood. Disney se devait donc de rassurer tout ce bon monde et puis d'éviter des futurs procès. Autre raison qui a pu peser dans la balance, on s'est rendu compte que les films disponibles en streaming en même temps qu'au cinéma sont les plus piratés. Et là, personne n'est gagnant, d'où cette décision. Les films prévus en 2021 sortiront en salle pendant 45 jours au moins avant d'atterrir sur Disney+.
Merci beaucoup, Luce Bernard. On n'attend pas 45 jours pour vous retrouver. Ce sera demain.
À demain.
Toutes les infos sur le site sur Europe 1.fr. À demain pour ce nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, c'est notre info média du jour avec une revue qui fête ses 10 ans et son 40e numéro, Schnock. Oui, parce qu'elle s'adresse aux vieux Schnock. Donc, pourquoi ce pari et qu'est-ce qu'on y trouve? Pour y répondre, son cofondateur et rédac-chef, Laurence Rémilla, il va nous dire si nous sommes des Schnock dans Culture Média. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Alors que tous les journaux cherchent à rajeunir leur lectorat, certains ont fait le choix au contraire de parler aux vieux, et même plus que cela, aux Schnock. C'est le pari réussi depuis 10 ans de Christophe Ernaud, plus connu sous le nom d'Alistair, et de Laurence Rémilla. 40 numéros parus avec des invités et des sujets choisis, on ne peut plus has-been. Les stars, les films, les bouquins, les artistes qui ont fait fureur dans les années 60, 70, parfois 80. Qu'est-ce qui fait le succès de la revue Schnock? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Pourquoi avoir choisi de parler aux vieux Schnock? Pour répondre, donc, Laurence Rémilla, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes franco-britannique?
Absolument. D'où mère anglaise, père français.
D'où ce prénom féminin ici en France, voilà. Laurence.
Lawrence.
Vous êtes le rédac-chef de Technicart et cofondateur et rédac-chef de la revue Schnock. Le sous-titre de Schnock est assez clair. Je le montre à la caméra si vous nous voyez sur europe1.fr. La revue des vieux de 27 à 87 ans. Si ce n'est pas une question d'âge, c'est quoi alors pour vous être vieux?
Être vieux, ben déjà, on l'a commencé il y a 10 ans, comme vous le disiez, donc on était jeunes, des jeunes cons de 37, 36 ans.
Vous avez quel âge? Obligé de vous poser la question.
Alors aujourd'hui, je ne sais plus, il faut demander à mon épouse Sandrine, mais je pense que j'ai 48, 49,
d'accord.
Je ne sais plus exactement. Et donc à l'époque, on avait 39, 36 ans, et donc le grand âge approchait, la quarantaine, et on s'est dit, si on faisait une revue qui nous ressemble, donc en effet... Moins de jeunisme, il n'y avait pas encore TikTok, etc. à l'époque, mais en tout cas, pas de TikTok pour Schnock. Et on s'est dit, si on s'intéressait non pas aux has-been, on réfute le terme, mais à nos glorieux aînés des années 60, 70, et maintenant ça commence à être 80, 90.
Donc le pari de la ligne éditoriale qui consiste à parler aux vieux, ce n'était pas de la provocation, c'était vraiment le fond même de cette revue.
Du tout, on se sentait vieux à l'approche de la quarantaine, vous le savez, on se sent vieux. On essaye de ne pas, de pas vieillir, on a eu la chance en produisant cet objet, Schnock, de côtoyer des anciens, des personnes âgées, mais qui étaient tellement jeunes d'esprit. Jean-Pierre Marial le premier, Jean-Pierre Mocky, de voir Mocky à l'œuvre, ça c'est des moments que je garderai toute ma vie. Donc on voyait que ces messieurs de 78 ans, 80 ans plus... étaient restés jeunes, étaient d'attaque, c'était des jeunes punks, donc des Schnock.
Je confirme.
Quand on est Schnock, on vieillit pas vraiment.
Je confirme ce que vous dites, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois Mocky sur d'autres radios et il fallait le calmer.
Ah
c'était
oui,
un punk.
Oui. Oui, absolument, absolument. Mais une fois que tu arrivais à cadrer un tout petit peu Mocky, encore on ne peut pas le cadrer, c'était un délice de l'interviewer.
Alors qu'est-ce qu'on trouve dans Schnock? Qu'est-ce qu'on peut y lire?
Eh bien, dans le dernier, on a un grand sujet...
D'une manière générale, on va rentrer dans le sujet du dernier, parce que c'est assez notable pour être remarqué, c'est pas un magazine, c'est une revue, et on peut acheter les numéros qui sont encore disponibles un par un.
Oui. Alors déjà, j'espère que ce qu'on peut y lire, c'est ce qui n'existe pas sur Internet. Donc, quand on se met sur un sujet, on le fait de manière complète. Donc, dans le dernier, le dîner de cons, si vous trouvez ces sujets ailleurs sur Internet, dites-le moi, et puis les têtes vont tomber. Et pareil pour les autres sujets. Donc, on a les vieux réflexes de journaliste, c'est-à-dire, si quelqu'un nous présente un sujet, est-ce réellement nouveau? Est-ce réellement intéressant? Y compris pour des sujets qui datent d'il y a 50 ans. Quand quelqu'un vient nous voir pour nous proposer un sujet sur comment étaient organisés les dîners de journalistes dans les années 20, je ne l'ai pas vu ailleurs, on y va et le sujet est sublime, on apprend des choses et on se dit, tiens, nous jeunes personnes des médias, ou pas tout à fait grabataires, on pourrait peut-être s'en inspirer.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que contrairement aux magazines ou revues, vous parlez d'un sujet, mais un sujet, admettons par exemple le film Le Dîner de cons, vous ne faites pas 7-8 pages, vous faites 70-100 pages sur le même sujet.
Absolument, c'est le côté un peu con, mais on y va, on fait 60 pages dessus et on se régale. Au final, on retrouve des interviews inédites de Villeray, enfin on trouve des choses parce que maintenant on commence à avoir un petit réseau de Schnock qui nous disent, ah ben, donc là c'était le cas de Philippe Durand, grand journaliste Schnock, et il nous dit, ah mais Villeray, je l'ai souvent interviewé et figurez-vous, j'ai fait l'interview con de Villeray. Donc on a cette chose incroyable où Jacques Villeray, grand acteur, nous dit tout ce qu'il pense des vrais cons. Donc, on sort un peu de la promo, on retrouve ce trésor et on le partage avec les lecteurs, les lectrices.
Jacques Villeray, évidemment, n'est plus là pour en parler. Toutes vos couvertures, c'est assez notable pour être signalé, ne sont pas des photos, mais des dessins. Est-ce que vous demandez l'autorisation aux gens de les mettre en couverture de Schnock? Il y en a qui pourraient mal le prendre.
Alors, non, on n'a pas demandé la permission à qui que ce soit pour le faire. Certaines personnes sont un peu plus rétives au dessin. Par exemple, notamment Alain Delon n'aime pas ça. Je pense à une comédienne aussi qui n'aime pas trop ça. Mais au final...
Laquelle ? Catherine Deneuve ?
Non. Catherine Deneuve, c'est la plus punk de nous toutes. Et donc, elle a adoré. Mais par exemple, Louis Delon n'aimait pas trop cette idée, mais je sais qu'il a aimé le numéro qui lui a été consacré. Il a appelé donc le rédacteur, il l'a félicité. Donc, les gens n'aiment pas toujours leur dessin, mais en tout cas, on ne demande jamais rien. Et la plupart, 98% des schnocks, adorent ce magnifique dessin d'Erwan Terrier.
Moi, je ne pensais pas à l'idée du dessin, je pensais à l'idée d'être en couverture où il y ait votre tête avec marqué schnock. Comme si ça vous faisait vieillir avant l'heure.
Alors oui, au début, les personnalités étaient encore plus rétives à cette idée-là. Certaines le sont encore. Je ne citerai pas de nom et j'espère les convaincre un jour. Mais en tout cas, oui, il faut qu'ils comprennent déjà la démarche de la revue. Donc, on leur envoie quelques exemplaires. Certaines comprennent, d'autres pas. Certaines personnes nous ont dit non. On a quand même essuyé des refus d'acteurs qu'on adore. Bakri, par exemple, on voulait faire quelque chose de conséquent avec lui. Il a reçu la revue, il a dit non, pas pour moi. Donc, ça arrive que les gens n'aiment pas. Et lui, je ne pense pas que c'était le fait de se voir affublé de l'étiquette schnock. Ça arrive encore à ceux qui veulent rester jeunes et qui ne veulent pas être associés à un vieux, à une idée de vieillir, bien sûr.
Quand vous avez lancé la revue il y a 10 ans, vous auriez pensé vous retrouver, non pas dans ce studio évidemment, mais vous retrouver toujours à la tête et que ça fonctionne toujours, que ça tienne 10 ans ?
Non. Voilà la réponse venu des tripes, la réponse est nette. Non, bien sûr, on l'a lancé, c'était pas non plus une boutade, hein, on était sérieux dans notre façon de faire, et on y croyait d'abord pour un numéro, donc un peu un one shot, comme diraient les Français, et ensuite c'est devenu un semestriel, on s'est dit pourquoi pas tous les 6 mois, et puis très rapidement on s'est dit non, il faut y aller, il faut professionnaliser, s'organiser, et le sortir tous les 3 mois. Voilà. Et donc voilà, le miracle tient depuis 10 ans, les lecteurs, les lectrices sont toujours là au bout de 10 ans. Merci à chacun, chacune d'entre vous.
Laurence Rémy, là, vous avez cité un mot français, one shot. Je vais en citer un autre, business model. On en parle juste après une courte pause. On est avec Laurence Rémy, là. On parle de schnock. Vous êtes dans Culture Média et vous avez bien raison. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Laurence Rémila, rédacteur en chef et cofondateur de la revue Schnock, dont le 40e numéro est disponible désormais. Il est consacré à ce film, Le Dîner de Con. Schnock, ce nom, c'est la revue des vieux, c'est votre baseline, votre surtitre. La revue des vieux de 27 à 87 ans. Comment vous avez trouvé ce nom, Schnock ? C'était dans votre tête ? Vous avez fait une étude de marché ?
Aucune étude de marché, c'est vraiment surgi de nulle part, donc oui, de nos têtes. Et l'idée, c'était vraiment de s'accaparer d'une insulte liée au vieillissement qu'on connaît tous, et surtout à une époque, donc à l'approche de la quarantaine, comme je disais tout à l'heure, où les journalistes passent pour vieux. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent chômeurs, journalistes, à partir de 40, 50 ans, c'est plus difficile de trouver du travail. Donc, on s'est dit, on va prendre ce terme-là d'insulte et en faire quelque chose de noble. Et aujourd'hui, en effet, les gens se disent « Ah oui, moi, je suis schnock ». Voilà. Donc, c'était un cri de ralliement pour les schnocks et schnockettes.
Vous êtes une rédaction ? Combien êtes-vous et quel âge avez-vous ?
Alors, le plus jeune, on a quelques vingtenaires de 28, 29 ans. Et on a aussi des rédacteurs de 84, 87 ans. Je pense à Gilles Durieux, que je salue, grand ami de Belmondo et de Jean-Yann, qui a écrit pour nous et avec nous. Et puis voilà, on était ravis aussi de faire écrire, d'accueillir les textes de ces grands témoins-là.
Alors, j'en ai parlé et avant la pause, le business model. Combien d'exemplaires sont tirés ? Combien vous vendez ? Il n'y a pas de publicité dans Schnock, ou alors je ne l'ai pas vu. D'abord, vous êtes soutenu par Flammarion. C'est important.
Flammarion distribue, donc il nous encourage à être dans les librairies et les relais et bien placés. Donc merci Flammarion et les représentants et représentantes de Flammarion qui font un travail formidable. Ensuite, on a la maison d'édition Latengo, petite maison d'édition indépendante. Et eux étaient les premiers, vous parlez de business plan. On n'avait pas de business plan. On a fait en 2010 la tournée des maisons d'édition pour parler de ce projet. Tout le monde disait oui, mais revenez avec un business plan, revenez avec un business model. On tombe sur Latengo, Alexandre Chabert, que je salue, et il nous dit que serait dans le premier numéro. Et là, on fonce. Pif Gadget, Jean-Pierre Marielle, Bernard Kouchner. Enfin, c'était vraiment un pot pourri de nos passions du moment. Et on l'a fait vite, on l'a fait bien, j'espère. Et tout s'est mis en place en cette année 2010-2011.
Le premier numéro, vous l'avez vendu à combien ?
Alors, le premier numéro a fini dans les 15 000 au bout de 4-5 retirages. On n'y croyait vraiment pas beaucoup à l'époque. On a d'abord fait un tirage de 2005, ensuite c'est devenu 4 000, 6 000 et voilà.
Le point d'équilibre était à combien ?
Aucune idée, je dirais.
Je crois que c'est la première fois où j'ai un patron de presse qui ne sait pas où est son point d'équilibre.
Parce qu'on est très très bien entouré, je dirais autour des 4 000 exemplaires. Voilà.
Donc quand vous vendez 15 000,
pif, je dis ça au pif.
Quand vous vendez 15 000, vous êtes largement au-dessus de votre seuil de rentabilité.
Oui, j'en parlerai au Trésor public.
Des abonnés ?
Et des abonnés, absolument, qu'on gère nous-mêmes, enfin la Tengo les gère, autour de 700-800 abonnés. Et du coup, aujourd'hui, on tire autour de 12-13 000 pour en vendre à chaque fois 8-9 000. Donc, on a 8-9 000 schnock-schnockettes qui, tous les trois mois, achètent leur schnock.
On le trouve majoritairement en librairie, puisque c'est plus une revue qu'un magazine. Il n'y a pas de pub dans Schnock, je l'ai dit. Parfois, ça vous regrettez pas un petit peu ? Je veux dire, c'est une revue pour les personnes âgées,
oui.
Pour les CSP+, et c'est les gens justement qui ont le plus d'argent devant
voilà,
eux.
Voilà, pour des maisons de retraite, pour des couches-culottes. Non, c'est pas...
CSP+, c'est la population française qui a le plus gros pouvoir d'achat.
Très bien, mais nous, on est ravis de leur proposer cet objet-là, sans pub, et qu'ils y trouvent vraiment un plaisir un peu pur de lecture, et on n'a pas besoin de s'allier avec le marketing et le commercial sur cet objet-là.
Alors vous écrivez, Laurence Rumilla, je ne sais pas si c'est pas un peu démago, vous allez me dire que cette revue est interdite aux cons. Comment arrivez-vous à vous en défaire ?
Très bonne question. Déjà, dans le premier édito du premier Schnock, donc en juin 2011, on se disait... Devenons schnock, mais pas des vieux cons pour autant. Donc je pense que ce n'est pas qu'une revue, mais un outil pour ne pas devenir con. Et je pense qu'on était plus con en 2011 qu'aujourd'hui. J'espère qu'on est un peu moins con aujourd'hui, 10 ans plus tard, et un peu plus schnock.
Il y a une rubrique très drôle, le schnock des cultures. Vous pouvez raconter ce que c'est, les schnocks contre les schnocks ?
Ah oui, alors on aime bien relever, justement, parce que dans la promo, et vous le savez bien, les artistes sont souvent, pour plein de raisons tout à fait compréhensibles, dans la langue de bois. Donc, dès qu'un artiste dérape, on aime bien le citer dans Schnock. Et d'ailleurs, quand on fait une interview dans Schnock, on adore, par exemple, dans le dernier, on a Francis Weber qui le fait, les personnes qui sortent un peu des phrases toutes faites et des gentillesses convenues.
Il y a Valérie Trierweiler, l'ex de François Hollande, qui en parle, c'était sur RTL. Elle dit, tu prends un petit, un gros, moche et chauve, tu te le fais piquer quand même. Joli trait d'esprit. Et Rachida Dati qui fait ce résumé. Dans une démocratie, qu'il y ait une droite et une gauche, c'est très sain. En marche, c'est quoi, dit Rachida Dati ? Des traites de gauche, des traites de droite. C'est ça, ce parti. Bim.
Voilà. Rachida Dati, on passe de devenir schnock.
Vous êtes également le rédacteur-chef du magazine Technicart Média. Comment se porte le journal ?
Très bien. Que vous dire ? On sort tous les mois, on fait de très belles choses. Notre dernière couverture avec Laurent Lafitte qui recrée l'origine du monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on a eu quelques petits problèmes d'interdiction, de shadow ban, comme diraient les jeunes, et on continue.
Non, je n'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le film sort mercredi, l'origine du monde.
Voilà.
C'est référence au tableau de Courbet, évidemment.
Voilà.
Et ce
donc
sexe
nous,
féminin.
On a recréé le tableau de Courbet, et puis du coup, on voulait de l'affichage. On voulait, comme on aime bien faire savoir ce qu'on fait, et on n'a pas réussi à avoir cet affichage pour cette raison-là. C'est pas très grave.
Le numéro est quand même en vente dans les kiosques.
On peut quand même l'acheter, vous avez encore 2 jours pour l'acheter, 4,90€.
Merci beaucoup Laurence Rumilla, je rappelle que vous êtes le rédacteur-chef et cofondateur de la revue Schnock, dont le numéro 40 est dispo désormais, le dîner de con en couverture. Dans un instant, on va parler de l'émission L'Équipe du Soir. Là aussi, il y a des Schnock qui la regardent, magazine qui décortique, qui commente l'actu footballistique, mais pas seulement. Depuis 13 ou 14 ans, nous serons avec son présentateur emblématique, Olivier Ménard. A tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Olivier Ménard.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste sportif, je dirais même dans votre cas animateur sportif. Vous avez été élu meilleur commentateur en 2017, présenté tous les soirs du lundi au vendredi une institution, l'équipe du soir. C'est sur la chaîne L'Équipe, le canal 21 de la TNT. Du lundi au vendredi, 19h45 puis 22h30. C'est déjà la 14e saison, ça ne cesse de progresser en audience. Vous connaissez vos chiffres ?
À peu près, oui.
Allez-y.
Ouais. Là, on fait la meilleure rentrée historique. Je crois qu'on a plus de 300 000 téléspectateurs.
335 000 téléspectateurs. La chaîne L'Équipe est la troisième chaîne TNT. Là, je parle de la première partie. Et la deuxième partie, 305 000 téléspectateurs. J'ai lu un communiqué de presse, il y a eu un pic, écoutez bien, à 438 000 téléspectateurs à 23h37. C'était à quel moment, quel jour et sur quelle phrase? Parce que 23h37, c'est précis. Qui a dit quoi?
C'est honteux, à mon avis. Ça va être un truc d'Olivier Rouillet.
Ouais.
C'est honteux. Voilà, un truc comme ça, je ne sais pas, un truc qui réveille les gens. Voilà.
Vous savez quel jour c'était ou pas du tout?
Non.
Votre record, c'était avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, ou le soir de la remontada, ce funeste Barça-PSG?
Depuis, on a battu... Non, ça devait être la remontada.
J'ai le score de la remontada, j'ai pas mieux, mais peut-être avez-vous mieux. Ensuite, 515 000 téléspectateurs, pique à 940 000.
Non, on a fait plus. On a fait plus...
Avec quel match?
Le quiz. Non, mais c'était lors du dernier Euro.
Ouais. Fait éliminer.
Oui, vraisemblablement, oui.
On va expliquer le principe de l'émission. Je vous laisse expliquer le principe de l'émission et je vais compléter, moi, de mon point de vue de téléspectateur.
L'équipe du soir, c'est un journal débattu. Des chroniqueurs sont là. On a des questions qui sont engageantes, qui sont fermées. La France méritait-elle d'être éliminée? Oui, non, machin, enfin voilà. Puis on a plein de thèmes. On a à peu près, par émission, 8 questions à... sur lesquels on doit s'expliquer, s'engueuler.
Mais je vais citer Paris Normandiste en 2018 qui disait ceci de votre émission, c'est entre ambiance de bistrot et décryptage technique pointu. Pour la 2000e de l'émission, vous aviez un invité de choix, un ancien président de la République, ça démarrait comme ça.
J'ai réalisé mon rêve.
C'est là, c'est
voilà,
bon.
Je suis invité, ouais. C'est difficile.
Ouais. Alors vous n'avez pas mis la Marseillaise, hein, vous avez vu? Ce soir, on vous a mis le moment où à un moment les journées sont un peu plus légères. C'est la musique d'entrée des joueurs du Parc des Princes.
C'est normal, maintenant que vous avez les moyens d'offrir une voiture. Vous êtes un rat avec moi.
Okay,
8 ans avant de m'inviter.
Okay.
Olivier, franchement.
Vous êtes un rat avec moi, dit l'ex-président Sarkozy.
Ouais.
Mais qui dit quand même que c'était son rêve de regarder l'émission. Il regardait vraiment l'émission tous les soirs.
Ah oui. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, le directeur général de l'époque, François Morinière, me dit Nicolas Sarkozy va passer, il veut absolument te rencontrer. Bon, j'ai dit oui, absolument, il a certainement d'autres chats à fouetter. Et puis, il arrive un moment dans la partie rédac télé, et là, je le vois à 30 mètres, il s'arrête, il se pose, il me regarde, mais il me fait le coup du fan. Et quand même, c'était l'ancien président de la République, moi je suis juste un journaliste de sport. Et puis, il commence à me dire « Bonjour mémé ». Oui, bonjour Monsieur le Président. Et puis, tout de suite, il nous avait préparé un petit quiz. Je connais le sport, choses comme ça. Alors, ce qui est drôle avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il brise la distance et quelques secondes plus tard, il te dit, tu vois ta discipline là. Je suis meilleur que toi. Voilà. Mais non, c'est formidable. C'est formidable parce qu'en plus, on le rencontrait, nous on est journalistes de sport. Et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de récupération de petites phrases, de petites choses, d'exploitation de trucs. Donc il était plutôt détendu. Puis en plus, moi ce qui m'intéressait, puis après on a eu François Hollande, moi ce qui m'intéressait c'était aussi de les remettre dans les choses qu'ils ont faites pour le sport. Et notamment Nicolas Sarkozy ou François Hollande, à un moment, sont intervenus sur les droits télé. Sur les questions qui sont très économiques et qui vont, par ruissellement, financer le foot, mais financer également tout le sport français.
Les clubs amateurs.
Les clubs amateurs, mais également, il y a la taxe Buffet. Donc, par ruissellement, la taxe Buffet finance aussi un peu les autres sports. Donc, c'est très important.
La taxe Buffet, du nom de l'ancienne ministre des Sports, ou la taxe Buffet, le buffet dans les stades?
Non.
Et qu'est-ce que la taxe Buffet?
Marie-Georges Buffet. C'est une partie des droits télé qui sont ponctionnés pour financer... les autres sports.
Le sport amateur.
Oui.
Puisque vous lancez le sujet, vous pensez quoi du feuilleton un peu tragicomique de l'an passé, de la saison passée, ces droits qui étaient récupérés par Mediapro, Mediapro qui a lâché l'affaire en race campagne, puis Amazon, puis Canal+, ça vous fait sourire?
Oui, ça me fait sourire, mais...
Est-ce que ça sert la Ligue 1? Est-ce que ça sert le sport?
Ah non, pas du tout, non. Ah bah non. Ah non, non, surtout pas. Non, non mais là,
Est-ce que ça vous ramène du monde, les gens qui refusent de prendre un quatrième abonnement ?
Oui, ça nous ramène du monde par intérêt, mais pour l'intérêt même du économique à la fois du football et du sport, c'est une catastrophe économique. Il y a plein de clubs qui avaient prévu d'avoir, donc on parle toujours du milliard, hein, qui devait tomber en droit télé. Il y a plein de clubs qui ont prolongé des joueurs de foot et qui se sont dit, tiens, en 2019, on a une augmentation via les droits télé de notre budget, mais un peu mécaniquement. Donc, imagine Philippe, hop, t'es mon joueur, tu ne t'inquiète pas, je te fais une prolongation. Et puis en 2019, sachant que le club aura plus d'argent via ses droits télé, t'inquiète pas, t'auras un bon bonus. Mmh. Ce qui est normal, c'était prévu. Mais là, tout d'un coup, les droits télé se cassent la gueule. Donc là, Philippe, je suis désolé, mais il va falloir parler, quoi.
Voilà, on voit par là que les présidents de club tutoient leurs joueurs. C'est comme ça, oui, c'est l'usage. Non, mais là, vous connaissez les codes, j'ai bien compris. Juste un mot, c'est une émission qui ne peut se faire qu'en direct, puisque très souvent, on prenait l'antenne à la mi-temps des matchs, notamment pendant la Champions League. Et moi, je veux dire, je regarde quand ça va mal.
Ouais.
J'adore entendre les analyses quand ça joue très mal.
Oui, mais à la fin, on nous reproche souvent ça. On nous dit, ah bah oui, mais vous arrivez...
Moi, je ne peux pas vous le reprocher parce que c'est ma propension naturelle à y aller à ce moment-là. Mais si le reproche doit être fait, c'est aux téléspectateurs, pas à vous.
Non, à travers la question, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une influence sur l'audience ? C'est en général, il y a un but dans les dernières secondes du match, et ce but-là va soit permettre à l'équipe française ou l'équipe de France de gagner, ou de perdre. Ça, c'est un truc qui se passe dans les dernières secondes. Ça, en général, là, ça, les gens affluent.
On n'a pas encore parlé de l'émission de cette année. Comme chaque année, il y a toujours des petites modifications, des nouveautés. Olivier Ménard avec nous, l'équipe du soir. C'est juste après ça, dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Olivier Ménard, le présentateur de l'équipe du soir, émission mythique sur la chaîne L'équipe, l'équipe 21, dont on entend la musique du générique. 14e saison qui vient de démarrer. Quelle nouveauté cette saison ?
De nouveautés pour la première partie, Olivia Leray qui nous fait sa manita d'Olivia Leray. La manita, c'est les 5 doigts de la main. Donc, on apprend 5 infos sur un personnage, sur une date clé, sur un adversaire, sur beaucoup de choses. Donc, il y a pas mal de portes d'entrée.
Et puis, vous nous avez un peu piqué du boulot ici, parce que chaque vendredi, il y a une chronique média présentée par Sacha Nokovic, qui est venu souvent ici à ce micro, journaliste à l'équipe. C'est quoi l'idée ?
C'est l'actualité du sport vue par les médias. Alors, ça peut être des coulisses, des transferts de journalistes, ça peut être des nouveaux consultants, ça peut être la manière dont a été traité le gros thème d'actualité dans les pays étrangers. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je suis en train de chercher quelque chose de très concret.
Tiens, je vais passer quelque chose de très concret. Pardon. C'est vendredi, il y avait une info, Sacha Nokovic avait une info sur Cristiano Ronaldo, la star portugaise, je précise pour les non-initiés, qui a quitté la Juventus de Turin pour Manchester United, le club de ses débuts. C'est pour les connaisseurs, on écoute.
On va commencer avec le retour tant attendu, celui de Cristiano Ronaldo, Manchester United. C'est ce week-end, c'est demain, c'est ça?
C'est demain, mais pas à la télé. En tout cas, pas en direct.
Pourquoi
pas à la télé anglaise. Là, vous savez, il y a le fameux 3 PM blackout. Tous les matchs joués à 3h de l'après-midi en Angleterre ne sont pas diffusés en direct. C'est pour préserver un peu l'affluence dans les stades, notamment au niveau amateur. Malheureusement, la programmation a été faite avant le transfert de cri d'amour à Ronaldo. Donc, pas à la télé anglaise, mais bien en France sur RMC et Canal+, c'est très bien diffusé en direct.
Voilà, moi j'ai appris l'existence du 3 PM blackout. Je ne savais pas que ça existait.
Si, ça existe.
Comme pour nous, le cinéma.
Oui.
Avec l'interdiction des films le samedi soir pour que les gens puissent aller au cinéma, à la télévision par exemple.
Exactement.
C'est ça part
du même principe.
L'équipe du soir, vous avez eu l'idée de l'émission, c'est votre idée à vous, en écoutant Christophe Ondelat.
Exactement.
Dans Faites-entrer l'accusé.
Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est j'ai eu l'idée, mais avec un autre copain qui était patron à l'époque de la chaîne qui s'appelle Benoît Pincivy. On a eu l'idée à deux. Moi, je présentais un journal qui s'appelait La Grande Édition. Il me dit écoute, pour la saison prochaine, je te refais confiance. Je dis moi, ça fait trop longtemps. Il me dit t'as quoi comme idée ? Je dis écoute, je sais pas, mais je vais réfléchir et on se revoit dans une semaine. Et là, j'écoutais un gros mot, RTL, avec On refait le monde, présenté à l'époque par Christophe Ondelat, et j'aimais bien l'idée d'un club de chroniqueurs et l'idée d'avoir plusieurs thèmes d'actualité. Et je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire ça, plutôt le soir, parce que c'est le sport, et puis moi, je ne suis pas du matin, donc il faut aussi s'écouter, on travaille, mais c'est aussi se détendre.
Ouais.
Et moi, je lui ai proposé l'équipe du soir avec ça. Et puis lui, ce qu'il avait vu, il avait exactement réfléchi en disant, Olivier, il peut présenter un talk show. lui a vu la rivière sur l'émission d'ESPN, c'est PTI, pardon pour l'interruption, c'était une rivière, mais moi ça me semblait beaucoup trop américain.
Il faut expliquer ce qu'est la rivière, c'est que quand vous regardez l'image, j'explique à qui n'a pas vu l'émission, quand vous regardez l'émission, sur la gauche, il y a tous les thèmes, comme un sommaire, comme un déroulé des 7, 8 ou 9 thèmes qui vont débouler dans l'émission. Et ça donne une promesse pour le téléspectateur, c'est qu'on ne va pas s'ennuyer, parce que si ce sujet-là vous ennuie, il y en a un suivant, puis un suivant, puis un suivant. J'étais un peu déçu, je pensais que c'était votre idée. Je ne savais pas que ça préexistait.
Non, 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 c'était l'idée de Benoît Pincivy. Mais moi, quand j'ai regardé...
Non, mais la rivière, piqué à ESPN,
ouais,
à la chaîne américaine.
Mais le concept, il était très américain. C'était deux vieux qui présentaient, qui sont géniaux, mais tout est au prompteur, tout est réglé au millimètre. Et moi, je n'imaginais pas ce genre de... Pour moi, ça faisait pas français. C'était pas un truc, voilà. Mais Benoît m'a dit, mais non, non, mais tu t'en fous des trucs. Prends la rivière, ça va identifier ton émission. Et là, lorsqu'il a eu cet argument, je me suis dit, ouais.
Il a eu raison. Ouais. Alors, c'est pas deux vieux, je vais citer, c'est pas deux vieux schnocks qui discutent, on dit ça sans aucun mépris. L'ambiance, je vais citer TV Mag du 28 mai, il disait, dans une atmosphère de franche camaraderie, mais néanmoins électrique. Est-ce que vos chroniqueurs s'engueulent pour de vrai? Est-ce qu'il arrive qu'ils partent fâchés?
Ah oui. Ouais, un bon chroniqueur de l'équipe du soir, c'est quelqu'un qui a un, de la personnalité, qui a deux, un sens de la narration qui lui est propre. Quelqu'un comme Eric Blanc ne raconte pas le même match que Grégory Schneider, mais c'est de par leur langue. Mm-hmm. Et c'est des gens qui ont la personnalité. Moi, en plus, je compose des questions qui engagent, oui, non. Et tout à coup, le sujet débattu, Benzema, Giroud, c'est pas tellement Benzema ou Giroud, c'est la façon dont va répondre et quels sont les arguments d'Eric et par rapport à quels sont les arguments de Grégory. Et eux vont s'engager. Mmh. Voilà. Donc, comme ils s'engagent, parfois, ils peuvent être fatigués, fâchés.
Vous savez le reproche qu'on fait aux politiques, c'est qu'on dit, sur le plateau, ils sont adversaires, et puis après, ils se tapent dans la main, ils vont tous déjeuner dans le même restaurant.
Ah, oui,
là,
oui.
Est-ce qu'ils partent fâchés en disant, je te parle plus jusqu'à demain ou à la semaine prochaine? Des fois, Yoann Micou, on a l'impression qu'il bug et qu'il veut plus parler. On dirait qu'il boude dans son coin.
Ouais, c'est arrivé. Mais, il faut l'assumer. Non, mais en général, ça va, quoi.
Vous avez choisi à dessein, je vous interromps, le cas de Giroud ou Benzema, parce que c'est une polémique qui dépasse le strict choix de l'avant-centre. C'est aussi communautaire, ce débat-là.
Oui, mais nous, on essaie de le recentrer uniquement sportivement. Mais oui, évidemment que... Il y a d'autres choses qui dépassent le sport.
Ouais, pourquoi c'est si difficile, ou alors vous ne voulez pas, mais ce qui m'étonnerait, pourquoi est-ce si difficile de trouver des chroniqueuses? Dans le générique de l'émission, il y a 10 têtes, seulement une fille, Karine Galli. Pour quelle raison?
Je ne sais pas. Je recherche souvent des nouveaux chroniqueurs. Une fois par saison, là, on se dit, on va ramener un petit ou une petite. C'est comme ça, je ne sais pas. Je peux faire un parallèle avec les gens qui nous regardent. En général, les gens qui nous regardent là, sur le compte Facebook qu'on a, on a peut-être 90 ou 95% d'hommes. Est-ce que le fait de parler de sport, c'est plus masculin que féminin? Mais nous, évidemment, on n'est pas opposés aux femmes, quoi.
L'émission existe depuis 14 ans. Vous voyez tenir encore 14 ans jusqu'en 2035?
Oui.
Et si quelqu'un la reprend?
Il la reprendra.
Ah bon? Ça vous fait pas plus que ça?
Si.
J'ai retrouvé une interview ancienne de vous, l'équipe Mag, 20 janvier 2018. Question à Olivier Ménard. L'équipe du soir peut-elle se passer d'Olivier Ménard? Réponse, je dirais non. C'est pas de la prétention, mais j'ai écrit ce truc. J'ai du mal à regarder l'émission quand je suis en vacances. J'ai l'impression que quelqu'un couche avec ma femme.
Fin de citation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on crée son émission, c'est un peu mon bébé. J'aime pas trop quand il y a quelqu'un qui présente mon émission, mais c'est juste physique, c'est pas de l'ego, c'est juste que je l'ai créée, elle est à moi, quoi. Voilà, c'est un lien un peu intime.
En une seconde, vous avez le sommaire de ce soir ou pas encore?
Non, pas du tout, non, faut que j'aille bosser.
Nous on continue, merci Olivier Ménard d'avoir été avec nous, c'est l'équipe du soir, ça me fait un effet dingue d'entendre ce générique dans les oreilles que je vois si souvent à la maison. Exactement, j'avais reconnu. C'est sur l'équipe 21, ça sera ce soir à 19h45 et la deuxième partie à 22h30. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe.
Culture Média continue, il y aura le rappel des titres de 10h et puis Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée, la romancière Cécile Coulon, on va parler de son nouveau roman Seul en sa demeure. Et puis dans les indispensables, on va aller au théâtre, on va parler littérature et science-fiction. Évidemment, pour clore l'émission, l'imitateur Marc-Antoine Lebray. Quel programme? À tout de suite sur Europe 1.